Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce mardi 19 mars 2024. Il est 11h15 du matin. Désolé pour le petit retard, hein, les gens qui attendaient ça sur Twitch. Petit retard à l'allumage, petit souci technique. Bref, c'est pas très très grave. On va parler de l'actualité du jeu vidéo, et surtout de l'actualité de l'industrie du jeu vidéo et de son milieu de manière générale. Ça parlera de PSVR 2, ça parlera également de Blizzard et d'Overwatch. Nous parlerons de la Battlefront Classic Collection. Nous discuterons également du sort fait ou subi par Tribes 3 Rivals. Mais ce ne sera pas tout, bien sûr. On parlera de la situation chez Electronic Arts de manière un peu plus globale. On rappelle que cette semaine sortent pêle-mêle quelques jeux vidéo. Princess Peach Showtime sort en fin de semaine. Rise of the Ronin sort en fin de semaine également. Dragon's Dogma 2 sort également en fin de semaine. Il y a un nouvel Alone in the Dark qui sort chez THQ Nordic. Et puis, comme je le rappelais dans le menu, le petit format vertical qu'on fait sur Origami tous les lundis, vous avez également Final Fantasy XIV qui arrive sur Xbox, Hi-Fi Rush qui arrive sur PS5 et Horizon Forbidden West qui arrive sur PC. Ça va, si vous avez envie de bouffer du triple A là, ou c'est, voilà, si vous avez envie de suivre les grosses licences, voilà, il y a ce qu'il faut, très honnêtement, pas de panique. Cependant, c'est pas les bonnes annonces de ces jeux-là qu'on va regarder. Il y a une annonce que j'attendais depuis très longtemps, c'était la date de sortie de Animal Well. Et Animal Well l'a annoncé tout récemment, alors bande-annonce, ça sort le 9 mai. Animal Well, donc, qui s'est annoncé sur console PlayStation, sur Steam et sur Switch pour une sortie le 9 mai. En développement depuis de très nombreuses années, il n'a pas toujours d'ailleurs eu ce nom-là. Il est développé par Big Mod, qui, si je ne m'abuse, est également le tout nouveau label d'édition indé monté par Donkey. Eh oui, hein, souvenez-vous de cette histoire. Et Animal Well, au-delà effectivement de son puzzle, plateforme, action, a l'air de proposer quelque chose qui est censé parler aux fans de Fez, c'est-à-dire un titre dont le monde entier est un grand puzzle, j'aurais pu dire aux fans de Tunic également. En tout cas, ils promettent quelque chose de très méta sur la compréhension du monde, de sa faune, de sa flore, de son langage, etc. etc. Donc forcément très très chaud. Je pense sincèrement que c'est un jeu qui méritera un spotlight tout particulier lors de sa sortie, bah, sinon dans l'hebdo d'Origami, et bien dans Wishlist, hein, qui me semble tout indiqué pour ce genre de prod-là. Et donc hâte d'en reparler début mai, je l'espère, en espérant qu'on arrive à mettre la main sur le jeu en avance, et puis sinon, bah, on prendra tout le temps nécessaire. Voilà pour le petit trailer. Il y aura une deuxième pause trailer, hein, qui vient remplacer désormais la bamboche. J'ai décidé que j'allais mettre, voilà, une deuxième petite poche de trailer en milieu d'émission, histoire de vous permettre de récupérer un petit peu d'air de temps en temps. Et non, le prochain wishlist ne sera pas début mai. Le prochain wishlist, si tout se passe bien, arrivera la semaine prochaine. On continue avec de l'industrie. L'industrie, la grosse, celle qui vend parfois et puis parfois ne vend pas assez. Et là, en l'occurrence, on va parler du PSVR 2, une indiscrétion hardware qui nous vient de chez Bloomberg, hein, un an après un lancement considéré comme honnête du PSVR 2, voire carrément encourageant, Sony aurait ordonné la mise en pause de sa production, la mise en pause et non l'arrêt total. On parle d'une suspension, hein, le deuxième casque de réalité virtuelle de Sony peinerait désormais en fait à écouler ses stocks actuels. Mais Sony resterait ouvert à la remise en route de cette production dès lors que les casques existants seraient vendus tout simplement. Donc l'info nous est rapportée par un journaliste de chez Bloomberg qui s'appelle Takashi Mochizuki, que vous connaissez peut-être, et ça a son importance parce que c'est également le monsieur qui a un historique avec le PSVR 2 dans cette publication sur Bloomberg, hein, par exemple, voilà. C'est lui qui avait estimé un démarrage plus timide, en tout cas, que la version officielle pour le PSVR 2. C'est quelque chose qui avait été ensuite pondéré par Sony, qui s'était dit bien plus satisfait que ce qui se racontait dans les colonnes de Bloomberg. Cependant, là, le journaliste se dit, voilà, assez sûr de lui, il n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, l'info est sûre, il la cite. Et c'est vrai qu'elle vient se conjuguer de manière assez naturelle avec la récente annonce de mise en compatibilité prochaine du casque pour les PC tout simplement, et pour les jeux PC, et pour les développeurs de jeux PC. Donc on vous rappelle que ça c'est pas encore le cas, que ça a été annoncé récemment par PlayStation, et que le but c'est de le rendre compatible PC dans l'année. On n'en sait pas plus pour le moment sur la période. Alors voilà, on va pas forcément jouer les surpris, bon il y a déjà une question de conjoncture, hein. C'est assez catastrophique pour le marché jeux vidéo de la VR actuellement. Le grand public, bon, a perdu la curiosité. Certains gros éditeurs alliés de la VR dans le jeu vidéo, comme Ubisoft, annoncent qu'ils ne vont pas continuer à participer à l'effort de guerre. Capcom est encore là, d'autres sont encore là, mais par exemple Ubi, qui est toujours le Ubi les bons tuyaux et le bon copain des nouvelles technologies, dit bon bah là il faut quand même qu'on fasse aussi nos économies là-dessus. Quand Apple parle de son casque Vision Pro, par exemple, regardez la manière dont ils en parlent, ils ne parlent pas de VR, d'ailleurs ils parlent pas non plus de réalité augmentée ou de réalité mixte, mais ils utilisent de nouveaux termes, la VR, pour une partie du public que ces entreprises essaient de cibler. Eh bien c'est un gros mot, c'est frappé d'une espèce de réputation de technologie un peu finito, ou en tout cas condamnée à rester de niche. Et là-dessus, PlayStation a forcément son rôle à jouer quand il décide bien sûr de sortir un casque qui ne fait déjà pas le pont avec le catalogue PSVR 1. Attention, hein, il y a beaucoup de jeux PSVR 2 disponibles, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Mais ils ont laissé à la discrétion des développeurs les portages de ces jeux PSVR 1 vers PSVR 2, et donc à leurs frais aussi. Et ils n'ont fait que pousser une apparence de soutien au casque lors de sa sortie, avec l'exclusivité Horizon Call of the Mountain, et avec bien sûr le mode, l'extraordinaire mode réalité virtuelle de Gran Turismo 7. Mais après ça, PlayStation a grosso modo disparu de la communication pardon, du casque, en tout cas au niveau des jeux. Ils ont poussé les autres, ils se sont reposés sur les autres, et puis voilà. Après bon, voilà, il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas uniquement conjoncture extérieure. Il y a le prix, forcément, hein. C'est un casque non autonome, plus cher qu'une console, la PS5, qui avait déjà elle-même augmenté de prix. Je comprends, moi, ce prix, parce que vraiment, les technos qui sont embarqués par le PSVR 2, si vous n'êtes pas familier ou familière du truc, c'est du grand luxe, en vérité. Mais stratégiquement, c'était peut-être pas d'un énième casque trop cher dont le marché jeux vidéo, réalité virtuelle, avait besoin. Et donc, pile quand des géants comme Meta arrêtent d'utiliser les mots magiques qui vont avec la VR, comme par exemple le métavers, pile quand même le Meta Quest 3 tombe un peu en désuétude avant même sa sortie, et ben voilà, forcément, ça fait un contexte de sortie très particulier pour un casque lui aussi très particulier. Alors bon, la sortie PC, ça permettra certainement pas au casque d'exploser les carcans et de redynamiser à lui seul toute l'industrie du jeu vidéo en réalité virtuelle, mais au moins ça promet de beaux moments aux gens déjà à fond dans cette techno. Enfin, personnellement, je sais que le suivi du regard et le rendu fovéal, qui consiste en gros à ne rendre le rendu de l'image n'est net que là où vous regardez, au moment où vous regardez, du coup ça fait des économies, du coup c'est pratique pour les développeurs, etc. Ainsi que les manettes d'ailleurs du PSVR 2, ce sont vraiment trois éléments que je trouve absolument géniaux, je l'ai dit plein de fois et je le redirai autant de fois que nécessaire. C'est un matériel que je trouve, c'est un matériel que je trouve absolument incroyable, et donc c'est cool au moins de le savoir arriver sur le marché PC, avec la possibilité pour les développeurs eh bien peut-être de venir profiter de, de ces nouvelles techno pour de nouvelles compatibilités de jeux PC sur le PSVR 2. Ça veut aussi dire que mécaniquement, on devrait voir arriver Horizon Call of the Mountain sur Steam. Hein, ça fait partie, ce serait logique avec l'offensive actuelle de Sony vers le marché PC. En revanche, voilà, pour l'instant, en tout cas selon Bloomberg, et ça n'a pas encore été confirmé par PlayStation, la production, elle est mise en suspens en attendant d'écouler les stocks. Et puis peut-être qu'ensuite, il arrivera à se faire une petite vie sur le temps long, bien sûr. Mais bon, voilà, il n'aura pas réussi à transformer ce qui était en train de se passer. Et ce n'était pas le bon casque pour transformer, voilà, donner une autre impulsion à la courbe. Et c'est vrai que je disais Call of the Mountain sur PC, mais Gran Turismo 7 sur PC, ce serait assez merveilleux. C'était jusqu'ici une indiscrétion, c'est désormais une réalité. Saber Interactive, l'une des 12 branches de l'arbre Embracer, s'est acheté une scie toute neuve et s'est séparé tout seul et dès que possible du groupe suédois qui rachetait en masse il y a 3 ans et qui licencie en masse aujourd'hui. Donc c'est Beacon Interactive, une société contrôlée et fondée par le cofondateur de Saber Interactive qui s'appelle Matthew Karch, qui rachète Saber Interactive à Embracer grâce à des fonds privés pour une somme d'environ 225 millions d'euros et quelques potentiels bonus dont on va parler ensuite. Alors, Saber, ce n'est pas juste un développeur, pour rappel, c'est un éditeur à part entière, ainsi qu'un groupe qui possédait de nombreux studios de développement, New World Interactive, Sleepgate, 3D Realms, Nimble Giant, le studio d'animation Digic, les studios internes qui travaillent sur Space Marine 2 ou Jurassic Park Survival, pour ne citer que cela, et puis également 4A Games, les gens qui ont fait la série Metro, ou alors Zen Studio, hein, qui sont des spécialistes à la base du jeu de Flipper, pour rappel. Et justement, ce projet de rachat, enfin ce rachat, pardon, de base, il permettait à Saber de s'en aller avec, on va dire, tout ça, plus de 3000 salariés en tout, 38 projets de développement de jeux en cours, plein de studios, pas mal de licences, mais pas avec tous les morceaux en vérité. Par exemple, le studio Aspyr, on va l'appeler Aspyr parce que je ne sais pas si on dit Aspyr, qui bossait pendant un temps sur le remake de KOTOR, eh bien il reste chez Embracer, tout comme Tripwire également, hein, les gens qui font Chivalry et Killing Floor, ainsi que Beamdog, ou Tuxedo Labs, hein, qui font Teardown, le jeu de destruction Teardown. Tous ces studios-là, eh bien, restent au sein du groupe Embracer et vont simplement être dilués dans d'autres branches de ce grand arbre, justement les 11 branches qui restent. En gros, faut se dire que 10 studios du groupe Saber original, qui en comptait 32 en tout, en fait, la plupart des gros vendeurs restent pour l'instant dans le giron d'Embracer. Dans le cas de 4A Games, donc qui font les métros, et de Zen Studio, le contrat de rachat, il laisse une priorité à Saber Interactive s'il voulait racheter ces deux studios également contre un deuxième prix fixe. Donc on a d'un côté les 200 et quelques millions dont on a parlé tout à l'heure, et puis ensuite il y a un deuxième chèque-os à faire pour prendre 4A et prendre Zen, et c'est déjà un truc que Saber a dit qu'il voulait faire, hein. Ils ont communiqué auprès de leur public, auprès de leur studio. Voilà, ils veulent récupérer 4A et Zen Studio, donc ils font les jeux de Flipper, En revanche, Embracer se gardera, quoi qu'il arrive, les droits d'édition complets sur la franchise Metro et sur tous les futurs jeux dans cet univers. Ça veut dire que 4A Games chez Saber Interactive fera quand même un Metro pour le compte de Embracer, et ce même une fois la séparation actée. Ce sera également le cas pour toute une série de jeux non annoncés que le groupe à Embracer a obtenu de garder sous leur tutelle, parmi lesquels, eh bien, Killing Floor 3. Alors certes, c'est chez Tripwire à la base, mais peut-être que Saber Interactive a essayé un temps de récupérer les droits sur Killing Floor. En tout cas, ils se sont sentis obligés de préciser que Killing Floor, ça reste chez eux. Donc Embracer vient de s'alléger de plusieurs milliers de salaires, tout en gardant potentiellement les meilleurs morceaux du groupe Saber Interactive. Et c'était manifestement le prix à payer pour s'éloigner d'un conglomérat dont la trésorerie, qui avait été gâchée par des choix absolument dramatiques, hein, des choix stratégiques dramatiques, lui faisait faire un peu n'importe quoi pour protéger les actionnaires. Et quand je dis n'importe quoi, je parle bien sûr de n'importe quoi sur un plan humain et sur un plan stratégique. Saber va donc continuer à faire ce qu'il savait faire avant, à savoir pas mal de projets de commandes pour un tel ou un tel, et dans les un tel, il peut y avoir justement Embracer. Embracer garde les licences sans garder les gens, et ils teasent déjà d'autres ventes du genre dans l'avenir. On sait que Gearbox est déjà, enfin en tout cas, plusieurs sources nous disent que Gearbox est le prochain, grosso modo, dont Embracer pourra officialiser la revente. Donc c'est grosso modo tout selon le plan d'Embracer, tout selon le Keikaku d'Embracer. Donc oui, ils gardent les licences et pas les gens, avec bien sûr toute cette bonne vieille violence humaine et managériale au milieu, dont ils se foutaient éperdument depuis le début, ça on l'a bien compris, et qu'ils n'ont même pas cherché à éviter au passage. Donc on a vraiment assisté à une absorption d'entreprises pour leur extorquer un certain nombre de licences, un certain nombre de propriétés intellectuelles, de développement, et puis ensuite, effectivement, on les terrorise au point de les laisser repartir dans l'autre sens. Évidemment, c'était peut-être pas le projet exact de base de Embracer, bien sûr. On sait qu'au milieu, il y a un revers de situation de très grande taille pour le groupe suédois lorsqu'ils n'ont pas réussi à finaliser un deal à 2 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Mais j'ai envie de dire, c'est bien fait à un moment quand même. On va pas non plus les plaindre sur ce fameux deal qui n'est pas allé au bout. Donc voilà, Saber, c'est désormais une entité à part, mais qui travaillera encore évidemment et naturellement avec Embracer dans le futur, rien que parce que les studios, beaucoup de studios qui sont au sein de Saber actuellement, du nouveau Saber Interactive, ce sont des faiseurs de double A. Et combien reste-t-il aujourd'hui d'éditeurs qui travaillent dans le double A? Donc les éditeurs et les branches de l'arbre Embracer, Nacon, Focus, quelques autres bien sûr, mais on le sait, via des branches comme THQ Nordic par exemple, c'est un partenaire privilégié des développements AA. Enfin privilégié, non pas à privilégier, mais privilégié de fait. Et justement, Aspyr Media, on en parlait il y a quelques minutes, c'est le studio qui est au cœur d'une controverse qui lui fait justement une bien triste réputation dans la communauté Star Wars, ce qui est un peu ballot tout de même. C'est ce même studio qui vient de sortir la semaine dernière la Star Wars Battlefront Classic Collection, qui va venir regrouper les deux jeux Star Wars Battlefront sortis avant les remakes, les reboots de DICE, donc en 2004. Et en 2005, vous en avez peut-être déjà un petit peu entendu parler, c'est ce regroupement deux jeux qui, normalement, une fois décompressés sur vos machines, pesaient à l'époque 12 gigas grand minimum, mais qui exigent désormais, en échange de quelques textures HD supplémentaires, plus de 60 gigas de téléchargement, soit plus que n'en demande Elden Ring. Alors ça, c'est évidemment l'arbre qui cache la forêt, c'est ce qui a fait un peu les gros titres, mais on parle de jeux multijoueurs qui se sont lancés avec trois serveurs le soir du lancement, on le rappelle, des bugs très nombreux, l'impossibilité d'y jouer sur certaines machines et finalement aucune amélioration de fond, alors que justement la communauté très active du jeu avait déjà fait des choses beaucoup plus intéressantes avec du modding. Et justement, pour accompagner ces presque 6000 évaluations et cette moyenne dite extrêmement négative sur Steam, Battlefront Classic Collection est désormais sous le feu de cette communauté des créateurs de mods pour, vous voyez un peu venir le truc, pour réutilisation à l'identique jusqu'au bug de contenu créé par les joueurs sur les plateformes de modding. On parle là d'un contenu en particulier qui était en fait à la base officiel et exclusif à la version Xbox de ces jeux, et qui ont été recréés, ce contenu a été recréé par la communauté pour être également accessible sur PC par l'intermédiaire du modding. On parle de maps, on parle de héros jouables avec leurs propres animations, et Aspyr, et du coup évidemment Saber derrière, probablement persuadé qu'il pourrait toujours se cacher derrière, il y avait ça sur Xbox quand même, c'est officiel, ils auraient volé la refabrication qui avait été faite par les modeurs et la revendrait désormais dans cette collection. C'est de la revente de contenu fabriqué par des tiers, des contenus sur lesquels tu n'as pas les droits. Alors autant le dire, la pente va être assez difficile à remonter pour le jeu, notamment sur Steam. Pourtant, Aspyr a déjà pris la parole et ils assurent qu'ils vont prendre les retours en compte au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ils disent d'abord vouloir se concentrer sur les problèmes serveurs avant tout le reste. Bah, c'est normal, le jeu est assez peu jouable. Et ils blâment, je cite, des erreurs critiques dans leur infrastructure serveur. Alors on ne sait pas s'il s'agit d'erreurs critiques techniques ou si c'est des erreurs critiques dans l'établissement, dans la création de leur infrastructure serveur, ce qui serait une excellente paraphrase pour dire on n'en a mis que trois. Mais c'est une possibilité. Donc les clients qui ont acheté le jeu sont invités à continuer à remonter les bugs et les comportements inhabituels du jeu via les canaux officiels. En ce qui concerne en revanche les accusations en vol de contenu auprès de la communauté des modeurs, eh bien elles sont, les accusations sont un peu trop fraîches cependant, et le studio n'a pas encore pu formuler de réponse à ce sujet. Ça arrivera très probablement dans les jours à venir. On aura vu donc en l'espace de quelques semaines le pire et quelque part le meilleur du studio Aspyr, parce que d'un côté on a certes cette Battlefront classique collection, et de l'autre eh bien on a les remasters de Tomb Raider 1, 2 et 3 qui ne sont certes pas parfaits, mais dont l'accueil a été autrement plus chaleureux une fois qu'on met effectivement tout ce qui a été discuté de est-ce que ça vaut encore le coup de jouer à ces jeux aujourd'hui. Donc il y aurait toujours effectivement en interne un projet KOTOR Remake qui serait dans les cartons, mais a priori plus chez Aspyr, plutôt du côté de chez Saber Interactive. En revanche, tous les gens qui ont permis de communiquer récemment là-dessus, notamment des gens proches du développement ou qui connaissent des gens, certains journalistes spécialisés dans les petits leaks comme Jeff Grubb, etc., s'accordent à dire une chose, c'est que le projet, depuis son passage au frigo en 2022, a très probablement subi un reboot intégral, et que à partir de là, si KOTOR Remake existe quelque part, eh bien il existe probablement sous l'état embryonnaire. Donc on peut ne pas mettre ça sur nos calendriers pour les années à venir, ne pas attendre une grande annonce avec du gameplay de KOTOR Remake, à mon avis, pour les trois prochaines années, easy peasy. D'autant que la première fois, il a été annoncé trop tôt, avec une cinématique, et je pense que les différentes parties impliquées, Sony et Lucasfilm Games, s'en sont mordus les doigts vu ce qui s'est passé ensuite sur le développement. Donc KOTOR existe, oui, c'est tout. Enfin, KOTOR Remake. Parfois, il y a des nouvelles plus déchirantes que d'autres, surtout si vous avez un intérêt particulier pour la pop culture japonaise et pour le JRPG. On va parler du récent décès de Inomata Mutsumi, qui est une illustratrice qui, pour nous autres occidentaux, est surtout connue pour son travail sur la série des Tales of, et qui nous a quittés le 10 mars dernier. Donc si vous êtes un petit peu amoureux d'art visuel japonais, je pense que vous connaissez le nom. Elle est décédée à l'âge de 63 ans, si le nom effectivement ne nous dit pas grand chose quand on est en pleine discussion là en ce moment et qu'on parle beaucoup de Toriyama, eh bien Mutsumi, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu plus, c'est certes le caractère design et les jaquettes des Tales of depuis Tales of Destiny en 97 sur PlayStation, puis ensuite pendant 12 épisodes, et également comme je le disais, donc illustratrice, créatrice du design des personnages et création des jaquettes. Elle s'était également fait connaître par des interventions sur l'anime Gundam Seed, ainsi que sur les couvertures, et là on raccroche de manière assez curieuse, des romans Dragon Quest, qui proposaient en fait une autre interprétation visuelle du monde de la série, très différente justement de l'imagerie mise en place par Toriyama dans les jeux. Donc je n'étant pas moi-même un grand connaisseur d'art visuel japonais, je vais éviter de prononcer des titres et des mots et des catégories que je ne connaîtrais pas. Mais en l'occurrence, je pense que vous connaissez un petit peu ces personnages, que vous les avez déjà aperçus, très souvent des héros androgynes avec une très grande émotion dans les yeux. Une autre manière aussi d'envisager même la présentation des héros, leur manière de s'habiller, etc. Et donc pour le public japonais, eh bien Mutsumi, ce n'était pas juste la dame qui a travaillé sur les Tales of, bien loin de là. C'était une animatrice, une illustratrice, une dessinatrice de manga, dont les œuvres ont vraiment nourri et fait fléchir aussi à leur manière la course de la pop culture japonaise et des arts visuels japonais liés à la pop culture. Voilà, mais je vais pas me risquer à ça parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Par respect, vraiment, je vais laisser le soin aux spécialistes et aux gens notamment de chez Suimasen de vous faire un article plus sérieux là-dessus. Mais je pense que vous voyez très bien en quoi son œuvre, elle pouvait différer de ce à quoi on était habitué vis-à-vis des présentations visuelles, notamment de JRPG, et qui, voilà, c'est ce qui a permis aussi à donner à la série Tales of, pour nous, une patine et une sensibilité à part dans leur manière de se présenter au public, etc. Donc effectivement, ces jours-ci, eh bien, les hommages vont dans un sens et vont dans l'autre, et je comprends effectivement que Greg, que Kamui, que Puyo eh bien, aient envie de vous proposer des hommages particulièrement fournis sur ces sujets-là. D'ailleurs, il me semble que Suimasen Turbo a fait une très très longue émission sur Toriyama il y a quelques jours, qui a l'air assez chargée en émotions. J'ai pas encore complètement, j'ai pas terminé ma découverte, j'ai lancé l'émission et je suis pas allé plus loin. Mais effectivement, comme tu disais, Kassim, Murayama, Toriyama et Mutsumi en si peu de temps, ça peut être, je l'imagine, extrêmement secouant. Retour donc de l'industrie dans sa forme la plus classique. On va parler de conséquences qui touchent un PDG de boîte. Ah bon, c'est pas tous les jours, il faut vraiment, vraiment pas réussir à faire rentrer l'argent pour que ça arrive. Mais donc, on va parler du fiasco Payday 3. On s'en doutait, on savait que le lancement du jeu et le peu de confiance que lui apporte la communauté Payday allait avoir des conséquences déjà sur la santé financière de Starbreeze, qui n'est pas au beau fixe depuis de très nombreuses années maintenant, mais pas que, comme dirait l'autre. Donc après un lancement qui a été complètement planté, aussi bien en matière de chiffres que d'accueil par le public, eh bien Starbreeze prend des mesures drastiques et annonce se séparer de son PDG. Donc vous me direz que Payday 3 avait quand même effectivement, normalement, permis à l'entreprise d'inscrire, on le rappelle, ses premiers bénéfices nets positifs depuis 2016, depuis le milieu des années 2010. Eh oui, la galère Starbreeze, ils la connaissent depuis un certain temps. Et vous aurez effectivement raison, mais ça n'a pas suffi, et surtout ça n'a pas suffi à créer l'effet d'entraînement espéré par l'entreprise, celui qui allait persuader les joueurs de quitter Payday 2, un jeu stable et gonflé à bloc de contenu, pour migrer sur un épisode dont l'évaluation Steam est toujours coincée au niveau extrêmement négatif, notamment parce qu'il manque de contenu et qu'il a des problèmes de stabilité. Allez comprendre comment cette transition ne s'est pas faite d'elle-même. Bref, Tobias Sorgren a été poliment remercié par le conseil d'administration pour ses 3 années de mandat comme PDG de Starbreeze, et il est remplacé par Juerge Goldner, je suis désolé pour la prononciation, donc un petit nouveau, il est dans le conseil d'administration depuis un an environ, et son but, lui, sera de mettre l'entreprise dans de bonnes conditions pour faire remonter la pente à la ponte, c'est pas mal aussi, à Payday 3. Sachant que, pour rappel, Starbreeze travaille en à côté sur leur projet qu'ils appellent le projet Baxter, qui est un jeu multijoueur dans l'univers de Donjons et Dragons, qu'on n'attend pas avant, lui, 2026, si, bien sûr, l'entreprise parvient à se tenir au-dessus de la ligne de flottaison financière d'ici là. Pour le coup, s'il y a bien un truc que Starbreeze sait faire, c'est déjouer les prédictions. Ils sont passés par absolument tous les trucs les plus rocambolesques du monde, notamment une très belle visite par le fisc dans les locaux pour délit d'initié. Mais n'oublions pas non plus que ça va forcément se faire aux dépens des équipes, parce que là on parle de faire remonter financièrement le nez de l'entreprise. Mais voilà, livrer du contenu et grappiller des pourcentages d'évaluation positive sur fond d'exigences managériales délirantes, et d'un côté, et d'insultes de la communauté de l'autre, on peut difficilement être plus entre le marteau et l'enclume que ça. Mais effectivement, pour l'ex-PDG de Starbreeze, ce lancement aura été le dernier clou dans le cercueil. Et vous y avez déjà droit, en fait, je crois. C'est l'heure de la petite poche de trailer et de découverte. 3 bandes annonces avant de repartir sur l'industrie du jeu vidéo, et on va commencer par celle de Saviorless, un jeu qu'on avait déjà regardé en bande-annonce dans l'émission il y a longtemps, qui est désormais signé chez Dear Villagers, et qui s'annonce pour le 2 avril, dans quelques jours seulement. Je pense que ça va vous rappeler quelque chose. Saviorless donc arrivé sur dans nos contrées le 2 avril prochain. Pour être tout à fait honnête, c'est un jeu que je vous montre depuis longtemps tout en étant absolument persuadé qu'il ne va pas forcément me plaire à moi, notamment parce qu'à chaque fois que je vois l'inertie de ces sauts, j'ai envie de fuir le plus loin possible. En revanche, effectivement, en termes visuels, il y a quelque chose d'assez fort qui se dégage avec cette volonté de faire un personnage qui fasse un peu franco-belge, c'est-à-dire que on dirait un univers effectivement dark, gothique, etc. Mais le personnage a des proportions et parfois des animations qui font un peu Gaston Lagaffe. C'est un peu curieux, mais donc le jeu est attendu donc pour le 2 avril, je le disais, et se présente donc comme un action platformer. On verra ça, on découvrira ça lors de sa sortie. Et le prochain, il est un peu plus connu puisque c'est une sortie d'accès anticipé. D'ailleurs, le développeur était très souvent sur le chat, il fut un temps, je ne sais pas si ce sera le cas aujourd'hui. On parle de No Plan B, le jeu de GFX, qui sort d'accès anticipé le 9 avril prochain. On est sur un jeu de programmation, de planification, de franchissement musclé. Alors la très grande différence avec les jeux du genre et notamment Door Kickers, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, c'est que on est là sur le nouveau jeu du créateur de Gladiabots. Donc on est sur des jeux de programmation. On programme d'abord et on laisse ensuite l'intervention se faire, elle, de manière presque comme un spectacle. Presque comme un spectacle dont on aurait écrit la partition en avance. Donc si vous voyez un petit peu de comment Gladiabots se comportait, on est un petit peu sur le même genre de délire. Donc on revient ensuite sur sa feuille. On repense un petit peu les mouvements, tu te places ici, tu tires dans ce sens-là, tu couvres cet angle-là, grenade à ce moment-là, et ensuite on regarde à nouveau le morceau se jouer. C'est un petit, voilà, la programmation visuelle de manière générale, c'est ce qui intéresse GFX depuis un certain temps. Le jeu est en accès anticipé depuis un bout de temps maintenant, hein, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti le 1er décembre 2021 en accès anticipé. Et voilà donc pour No Plan B. Et on continue avec un dernier, celui-ci il avait quasiment disparu et ça fait trop plaisir de le revoir et ça fera super plaisir surtout si vous aimiez le précédent jeu de la série Read Only Memories. Et là c'est la suite qui sort et qui s'appelle Neurodiver, annoncé pour le 16 mai 2024. On est sur du jeu d'aventure, cyberpunk, queer et le reste, bah, vous connaissez peut-être déjà la série.
Nothing yet. Neurodiver launching! Golden!
It's very nice to meet you.
What do you mean, psychic attack? Is something wrong with my brain?
Mai donc pour Read Only Memories Neurodiver, qui est la suite, pour rappel, de 2064 Read Only Memories. Est-ce que Neurodiver vous promet dès le début une traduction française? Non, désolé. Peut-être que ça arrivera un peu plus tard, ça sera au bon vouloir de l'éditeur qui s'appelle Chorus Worldwide Games, sachant qu'au développement, c'est toujours la même équipe. Il s'agit de Midboss, un petit studio qui s'était, je crois, fait connaître justement avec 2064. Donc, jeu d'aventure, mais aussi visual novel à l'occasion. Hein. Faut pas s'imaginer non plus qu'on va avoir un immense... Enfin, je crois pas qu'on va avoir un immense inventaire et combiner des objets entre eux. C'est avant et avant tout des jeux de personnages et des jeux de dialogue. C'était sympathique, le petit indé, mais on retourne chez Electronic Arts. Alors, Electronic Arts, annoncèrent récemment des licenciements au sein de plusieurs de ses antennes. Vous avez peut-être pas raté l'information, et notamment chez Respawn. Souvenez-vous, c'était le moment de nous expliquer en février, c'était il n'y a pas très très longtemps quand même, qu'ils allaient réduire notamment la voilure sur les jeux à licence, et notamment les jeux à licence Star Wars. Je vous avais expliqué qu'a priori ça concerne surtout les jeux à licence Star Wars non liés à des Jedi, comme bah, par exemple le projet de FPS Le Mandalorian qui ne verra jamais le jour. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait en tout et pour tout au sein d'Electronic Arts 600 postes supprimés ou à supprimer, c'était pas très clair. Si bien que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quand on découvre de nouveaux licenciements dans d'autres antennes qui semblaient sauves il y a encore quelques jours, on ne sait pas trop si ça fait partie des 600 ou pas. Bien qu'au fond, ça ne change pas grand-chose aux infos qui arrivent là. Donc Respawn licencie également, et oui, à nouveau comme... cette fois-ci, ça ne va pas toucher les équipes qui travaillaient sur du contenu à licence Star Wars, etc. Ils ont déjà licencié, pour rappel... 200 personnes de l'assurance qualité début 2023, donc Respawn se fait quand même saigner depuis un bout de temps, et maintenant ce serait l'équipe Apex Legends qui devra continuer sans une partie de ses forces. On ne connaît pas le nombre de personnes renvoyées cette fois, même s'il était assez clair que la team Apex était dans le collimateur de Andrew Wilson. Hein, comprenez que le Battle Royale est considéré comme à risque, hein, ce jeu-là est considéré à risque depuis qu'il ne remplit plus un contrat assez simple entre Respawn et Electronic Arts. Il s'agit de rapporter, de faire en recette $1 milliard tous les 2 ans. Et jusqu'ici ça a été le cas, mais pas sur les 2 dernières années, alors il faut tirer la sonnette d'alarme. Bref, tant pis hein, si les équipes viennent s'arracher la tronche pour sortir cette nouvelle saison que vous avez peut-être vu sortir, dont le but était justement de remettre un peu de frais dans la formule du jeu, de réengager les joueurs. Tant pis si justement ces efforts semblent pour l'instant porter leurs fruits, parce qu'on rappelle que là actuellement le jeu fait des pics de joueurs simultanés 2 fois plus haut qu'avant la sortie de l'extension, et ça dure depuis plusieurs jours. On rappelle que Apex aujourd'hui sait encore faire du 425 000 joueurs simultanés en pic rien que sur Steam, ce qui n'est pas rien. Tant pis pour ça donc, et merci pour les travaux. Une partie de l'équipe Apex se fait effectivement licencier, on l'a appris la semaine dernière. Il y a une autre actualité Apex en ce moment, je pense que vous l'avez vu, une faille de sécurité qui a amené certains joueurs pro, compétitifs, à se voir imposer en pleine partie des logiciels de triche qui les ont exposés à des bannissements. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet, mais il semblerait que le problème vienne du moteur, que la faille vienne du moteur. Il y a pas mal d'articles déjà bien documentés sur cette histoire, qui est un peu moins ma spécialité ici, donc je vous oriente plutôt sur les articles. Je mettrai ça en description de la vidéo sur YouTube, comme d'habitude. Bon, le tant pis pour les efforts et merci et au revoir, hein, c'est une comptine que connaissent également très bien les employés de Electronic Arts à Galway, en Irlande. C'est, pour rappel, l'un des sites historiques de l'entreprise en matière d'assistance client, et c'est l'un des endroits où Electronic Arts a l'habitude de venir mettre un petit coup de serpette régulier à chaque fois que l'entreprise doit redevenir une montgolfière, n'est-ce pas ? Donc il y avait déjà eu 100 personnes licenciées là-bas en 2022, possible qu'il y en ait eu en 2023, j'avoue que je finis par perdre un peu le compte. Et en fait, on m'a confirmé récemment que la dernière coupe, elle date de la semaine dernière. Hein. Il y a un certain nombre d'emplois qui ont été supprimés là-bas, avec toujours le même objectif au final, externaliser là où c'est moins cher, auprès de ce qu'on appelle les service partners, qui peuvent être en Inde, en Pologne, ou d'autres grands pôles de ce type. Et au passage, par exemple, toute l'équipe qui était consacrée à l'assistance des joueurs et donc des Clio, la voiture, des clients du MMO, des clients du MMO Star Wars The Old Republic, elle a sauté la semaine dernière. Et même si par devant, en fait, Electronic Arts ne cesse de promettre aux joueurs de The Old Republic que le jeu ne s'en va nulle part et qu'il ne démobilise personne sur le sujet. Hein. L'assistance client sur un MMO, c'est absolument vital. Une grande partie des gens qui intervenaient aussi sur les jeux mobiles ont été licenciés, ainsi que pas mal des personnes qui s'occupaient de maintenir une base de données, des informations vitales liées à chaque jeu, donc des espèces de grands dico, de grandes encyclopédies, pour offrir ensuite le service le plus rapide aux clients. En gros, on m'a parlé de locaux de Galway, qui auraient perdu d'un seul mouvement la semaine dernière la moitié des personnes qui avaient survécu aux précédentes coupes et qui y bossaient encore. On entend très souvent parler d'Electronic Arts licenciant à Galway ou à Austin, qui est un autre pôle de ce genre-là. Il faut, quoi qu'il arrive, partir du principe que ça devient très très difficile quand Electronic Arts annonce une phase de licenciement de masse, d'imaginer que ça ne passera pas par ces deux antennes. Et en parallèle de ça, je pense qu'on peut le noter également, il y a comme un nuage noir qui flotte au-dessus de la licence Battlefield, hein, donc dans cette réduction de 600 personnes qui a été opérée par Electronic Arts en février, eh bien, on sait que ça concernait notamment le studio Ridgeline Games, Ridgeline Games, où en fait c'est là-bas qu'était supposé se jouer le futur de la série Battlefield après 2042, et ce depuis l'ouverture du studio, hein, un studio qui a été fondé il y a à peine 2 ans. C'est là-bas qu'était parti travailler le directeur créatif Marcus Leto. Marcus Leto, c'est celui qu'on nomme parfois le papa de Master Chief, dans le sens où en fait, il a effectivement énormément contribué à la création du personnage de Master Chief, mais c'est pas le papa de Halo. Et en fait, voilà, c'est un poste que lui, il avait rejoint il y a 2 ans et qu'il avait quitté il y a quelques semaines avant justement que le studio ne soit fermé, qu'avant que Electronic Arts ne prononce la fermeture du studio plutôt. Parce que ne soit fermé, on ne sait pas qui ferme, il y a un côté un peu passif. Et ces jours-ci, il y a une deuxième personne qui se retrouve démobilisée, qui se démobilise elle-même de la licence Battlefield. Eh bien, c'est Craig Morrison qui occupait le poste de directeur créatif sur la licence Battlefield chez DICE. Et lui aussi, rend son tablier. Et ça a été repéré comme très souvent par des comptes très actifs autour de la licence Battlefield. Ce sera maintenant au studio Criterion de porter la franchise à bout de bras, sans qu'on sache exactement pour l'instant ce qui se passe là-bas. Si ce n'est qu'a priori, il travaillerait normalement sur une campagne solo. Et voilà, de son côté, Marcus Leto, le papa de Master Chief a fini par s'exprimer quand même sur les récents événements et sur son passage chez Electronic Arts. Il dit sur son compte Twitter n'avoir rien de positif, là je le cite, rien de positif à dire à propos d'Electronic Arts, de son récent départ, du licenciement de son équipe ou des réductions de personnel qui frappent l'industrie par vagues ininterrompues. Fin de citation. De quoi, forcément prendre un petit peu la mesure du coût humain absolument gigantesque derrière justement ces grandes promesses d'Electronic Arts de faire revenir Battlefield en force, alors que voilà, on ouvre des studios il y a 2 ans, on leur demande de réparer Battlefield pendant qu'en vérité il y a d'autres dossiers qui sont certainement en train d'occuper Electronic Arts très fort et qui font que peut-être que dans ces studios on s'est senti un petit peu seul pendant qu'Electronic Arts était surtout en train de gérer la perte de la marque, l'abandon de la marque FIFA sur ses jeux de sport, sur ses jeux de foot, ou la gestion des jeux à licence chez Respawn, dont il commence déjà à revenir. En tout cas, il y avait quand même quelques rumeurs depuis quelques temps qui laissaient penser que ce qui était vraiment difficile à vivre pour les équipes là-bas, c'était d'avoir été mobilisé et d'avoir été un peu abandonné sur ces projets-là et de ne pas savoir exactement ce qu'ils étaient censés faire pour sauver Battlefield. Et on se souvient l'après 2042 où Electronic Arts a annoncé un grand plan de grand retour en fanfare, etc. Alors que derrière, il y avait des gens qui étaient en train vraiment de péter des plombs, quoi. Bon, ça fait quelques semaines que je vous bassine avec un jeu et vu qu'il s'est déjà planté, je pense qu'il faut qu'on en parle. Voilà, je glapille un petit peu dans tous les sens en disant mon impatience de voir la licence Tribes revenir. J'en avais presque oublié un truc fondamental qui s'est vérifié la semaine dernière. Certes, la commu Tribes est petite, mais même la commu Tribes n'a pas complètement envie de voir le jeu revenir, en tout cas pas sous cette forme et pas avec ces développeurs-là. Donc pour faire très court, Tribes 3 Rivals s'est lancé la semaine dernière. Il s'agit d'un fast FPS sur des zones ouvertes où le but, ça va être de capturer le drapeau en gardant un maximum de vitesse par un système de ski, c'est-à-dire qu'on supprime la gravité de ses chaussures et on dévale des pentes. Il n'y a pas vraiment d'autres jeux que Tribes. Voilà, il est le seul un petit peu sur ce segment-là à proposer ces sensations-là. Mais donc Tribes 3 Rivals s'est lancé la semaine dernière sur un format que j'appellerais Premium ++, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un accès anticipé payant et qu'en plus de ça, il est directement distribué avec plusieurs potentiels packs premium qui contiennent des cosmétiques et une saison à venir de cosmétiques. Une fois qu'on enlève la promo sur la semaine de sortie, eh bien ça peut aller jusqu'à ça peut aller chercher jusqu'à 99€ le jeu, avec derrière pas mal de contenu récupéré directement depuis Tribes Ascend, le précédent jeu à s'être cassé les dents sur le concept, même s'il a réussi pendant plusieurs années, je dirais, et donc notamment des maps, ainsi que également du contenu cosmétique. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on a des packs à 99 balles pour avoir du contenu cosmétique qui sera livré sur le temps long et qui serait fabriqué dans un processus qui commence par de l'IA et qui serait, avec les grands guillemets, fignolé par le ou les artistes du studio. Donc vous voyez bien que déjà, ça sent un peu la poudrière. Et quelques jours plus tard, eh bien, le jeu est quasi déjà un échec. Il n'a jamais dépassé les 900 joueurs simultanés sur Steam. Dans des parties de capture de drapeaux qui sont supposées opposer des équipes de 16 joueurs, il existe aussi du 7 versus 7 compétitif. Mais voilà, la catégorie reine pour débuter et pour découvrir Tribes, c'est le 16 v 16. Bref, c'est déjà très difficile en fait de ne pas tomber dans des parties qui sont truffées de bots tout simplement. Et en essayant justement de faire mes recherches sur les origines d'un flop aussi brutal, je me suis rappelé d'un truc vraiment fondamental. Le nouveau studio derrière cet épisode, qui s'appelle Prophecy Games, eh bien, il a été fondé par Erez Goren. Et Erez Goren, c'est tout ce que Tribes ne devait pas avoir à ses côtés. Alors déjà, c'est le mec qui a fondé Erez. Erez a été fondé parce que ça sonnait un peu comme Erez. Ça vous met une base de travail, ça vaut ce que ça vaut. Bref, moi je pensais en fait que c'était l'inverse. Je pensais qu'en fait Prophecy Games avait été fondé en périphérie de Erez pour s'éloigner de Erez Goren. Et il se trouve que c'est un peu l'inverse. C'est plutôt son nouveau véhicule pour continuer les mêmes magouilles qu'avant. Donc c'est le fondateur de Erez Studio, c'est un type aux méthodes despotiques qui ont été documentées de nombreuses fois par ses équipes, qui empoisonnent grosso modo tous les projets de jeu que Erez essaie de porter depuis de nombreuses années. On est sur quelqu'un d'extrêmement cynique, dont le mantra a toujours été de dire « si le jeu ne prend pas, on abandonne le jeu et on ne rend pas l'argent ». Et moi je pensais en fait que Prophecy Games, c'était une tentative d'un certain nombre de développeurs fans de Tribes de s'éloigner de cette réputation. Mais en fait, c'est la manière dont le loup se déguise en ce moment, en agneau, en tout cas ces jours-ci. Donc en 5 ans, depuis la création en périphérie de Erez de Prophecy Games, le studio a déjà travaillé sur un auto-chess, donc un auto-battler, dans l'univers de la licence Smite. Le jeu a été abandonné. Un looter-shooter dans l'univers de Tribes. Le jeu a été abandonné. Un extraction-shooter dans l'univers de Tribes. Abandonné lui aussi, le but, c'est toujours bien de continuer sur la mode actuelle. Et dès qu'on n'arrive pas à s'insérer dans la mode actuelle, on passe à la suite. Donc c'est assez naturellement que la communauté, qui a du mal un petit peu à suivre le mouvement et la migration sur ce Tribes 3 Rivals, sachant que le mec a en plus la langue très bien pendue sur le Discord de l'entreprise. Il n'a pas peur de dire qu'ils n'ont pas vraiment de plan clair pour cet accès anticipé, qu'actuellement une seule personne travaille sur les maps du jeu, un seul mapmaker pour Tribes 3 Rivals. Donc pas d'ajout de véhicules finalement, malgré le fait qu'il l'avait promis au micro d'IGN. Pareil pour les parties en 32 versus 32, et tout un tas de choses en fait qui ont été annoncées durant ces derniers mois, durant la courte phase de communication du jeu, et qui finalement ne vont pas se matérialiser. Ce qui a provoqué en fait évidemment pas mal de colère chez les acheteurs, et ça a conduit à une sorte de purge du Discord où en fait le patron manuellement bannissait les gens mécontents les uns après les autres. Alors oui, effectivement, Tribes 3 Rivals, le jeu est déjà un peu désert à cause d'un budget marketing trop limité et d'un modèle de distribution qui nous apparaît bien fumeux. Et oui, on sait que depuis de nombreuses années, la commu Tribes, elle est bien plus ramassée qu'elle ne se rêve, en fait. Hein. Voilà, entre amateurs de la série, on pense qu'on est plus nombreux. Non, effectivement, bande de bâtards, on n'est que deux. C'est pas vraiment ça, mais quasiment. Mais il y a quand même un petit passif. Voilà, il y a quand même un petit passif qui nous amène aussi là où on est aujourd'hui. Et si RS Goren continue sur son modus operandi habituel, on peut s'attendre à une fermeture des serveurs dans l'année. Voilà donc les limbes toutes pourries dans lesquelles est coincé l'un des fast FPS les plus uniques à mes yeux. Yay! Quelques brèves issues de l'industrie du jeu vidéo, et est-ce qu'après ce sera terminé? Peut-être, ou peut-être pas du tout. Donc on va commencer par 1 million de ventes confirmées pour Deep Rock Galactic Survivor. C'est un Vampire Survivors like, pour rappel, qui est développé par le studio Fun Day pour le compte de Coffee Stain, hein, qui possède la licence Deep Rock Galactic sur Deep Rock Galactic tout court, pardon. Et il a d'abord dépassé les 500 000 exemplaires vendus sur sa première semaine. Et un mois plus tard, c'est déjà le million. Pas mal, tout de même. Très jolie performance, hein, compte tenu, on le voit, des sorties actuelles. Et justement, le studio va célébrer ça. Eh bien, en sortant un nouveau biome, ils l'ont annoncé tout récemment. On parle bel et bien, hein, parce que là, si vous vous dites, attends, ils sortent un nouveau biome parce qu'ils viennent de taper le million, ils ont trop de temps, quoi. C'est un accès anticipé. C'est 1 million pour un accès anticipé. C'est comme ça que commence la vie du jeu. 1 million en un mois, donc ça devrait bien se passer pour la suite. En tout cas, le projet ne sera pas coincé dans les limbes de l'algo, ça c'est absolument certain. Le million également pour Balatro. Voilà, Balatro, le roguelike de cartes, donc édité, on le rappelle, par Playstack, qui reprend sa courbe de vente normale après sa disparition de plusieurs boutiques en ligne, notamment celle de la Switch. C'était merci 1 million de fois que disait le communiqué. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai eu envie de simplement répéter à ce communiqué l'insulte fleurie que j'utilise à la fin de chacune de mes parties. Ce petit juron que je réserve uniquement à Balatro et que je souffle dans ma barbe à chaque fois que je range le Steam Deck sur fond de la musique de Game Over. On est content pour le dev, hein. On le déteste aussi un peu. Enfin, moi, il a brisé ma vie. Heureusement, il m'en reste deux. On reste dans les millions d'unités vendues avec Wolong Fallen Dynasty, qui communique effectivement sur le fait qu'il a passé cette barrière quand même très symbolique des 5 millions. C'est une manière de faire un petit point marketing avant l'arrivée du prochain jeu de la Team Ninja, qui arrive, pour rappel, en fin de semaine, hein, puisqu'il s'agit de Rise of the Ronin, développé en parallèle, bien sûr, de Wolong. On le rappelle, c'est le même développeur, mais pas le même éditeur, hein, puisque c'est Koei Tecmo qui s'est occupé d'éditer Wolong. Et c'est Sony Interactive Entertainment qui a signé Rise of the Ronin. Mais c'est quand même toujours assez cool pour un développeur de dire « Hey, notre prochain jeu sort vendredi. » Et regardez, le dernier s'est quand même écoulé à plusieurs millions d'exemplaires. Et ce, sans qu'il puisse se targuer d'être une exclusivité PS5. Car, on le rappelle, Rise of the Ronin sort vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Ou jeudi soir, je ne sais plus. Sort non pas sur PC et sur PS5, mais sur PS5. Avec une version PC qui arrivera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, voilà, ça fait partie de ces jeux qu'on considère comme des second party. Comme Helldivers 2, ça y est, j'ai pu dire Helldivers 2, yes. Un petit point lecture, et je vous envoie vers Kotaku et donc le journaliste Kenneth Shepard qui vient de sortir là-bas une enquête à propos du développement de Overwatch 2. Une enquête qui va être centrée sur la promesse d'abord amendée, et puis ensuite de moins en moins priorisé, voire tenu, de livrer du contenu jouable solo ou en coopération, qui était l'un des piliers de la promesse de l'annonce d'Overwatch 2, et quelque part l'un des piliers de justification de l'existence d'Overwatch 2. Alors on se souvient bien sûr du moment où Blizzard a annoncé que le Hero Mode, qui permettait énormément de rejouabilité en solo et en coopération, avec des arbres de compétences, etc., etc., ne sortirait finalement pas. On se souvient de la promesse de ces petits chapitres de 30 minutes, qui s'est pour l'instant matérialisé une seule fois l'été dernier. Et puis, le journaliste part là directement en plongée dans les difficultés actuelles de Blizzard, et notamment celles rencontrées par l'équipe Overwatch 2 depuis les récents licenciements ordonnés par, on va dire, Microsoft et Activision, hein, à défaut de pointer un, on va pointer deux doigts, comme ça, en Mexican standoff. Et donc, l'article va discuter avec plusieurs ex-employés de Blizzard, de la difficulté de développer ce mode histoire dans le système managérial Blizzard et dans le système décisionnaire de Blizzard, avec manifestement des boucles décisionnaires assez flippantes dans lesquelles on peut se retrouver coincé là-bas dès lors qu'on essaie de faire autre chose que ce pourquoi le jeu était attendu dès le départ, ou en tout cas est attendu dès le départ. Et il parle aussi du fait que bah, voilà, les premières story missions, elles auraient été vues par Activision, puisque c'était avant le rachat par Microsoft, bah, comme un orteil dans l'eau, en fait. Hein. Il fallait qu'elles fassent du chiffre pour que l'équipe reçoive un feu vert pour continuer. Et selon certains ex-Blizzard, eh bien, elles n'auraient été ni un succès financier, ni un succès d'estime dans la communauté. Ça fait donc partie, cet article, des premiers à aller discuter avec bah, des récents licenciés de la toute dernière charrette absolument mouse qui a été enclenchée par Microsoft et Activision. Pour rappel, en tout 1900 licenciements au sein des studios et des bureaux de Xbox. Et uniquement de Xbox, pas de Microsoft, de Xbox. Et enfin, deux courtes news liées au licenciaton. Je suis désolé, hein, on a parlé un peu avec Electronic Arts tout à l'heure, mais finalement on les retrouve ici. D'un côté, Lunark Studio, qui est une équipe de développement canadienne qui a sorti il y a un mois son jeu qui s'appelle Islands of Insight. Eh bien, le studio tire désormais la sonnette d'alarme et on appelle à l'industrie pour trouver de l'aide, et un peu en urgence d'ailleurs. Islands of Insight, faut l'imaginer comme une sorte de The Witness, sauce fantasy, dans un monde ouvert, connecté et partagé entre les joueurs qui propose en tout 10 000 énigmes. 10 000 énigmes, pardon. Donc c'est à la fois hyper ambitieux, hyper casse-gueule, mais en plus, les personnes qui lui ont donné sa chance à ce jeu, eh bien, sont hyper contentes du résultat. Ça fait malheureusement partie de ces jeux qui n'ont pas concentré des milliers et des milliers d'évaluations positives le mois dernier sur Steam. L'accueil critique a été bon, mais la visibilité du jeu est insuffisante. Voilà donc le studio qui, un mois plus tard, eh bien, se retrouve en très mauvaise posture, probablement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de réserves et comptaient sur les ventes du jeu. Et le studio ne sait absolument pas comment il va pouvoir continuer à payer ses équipes. Aussi, plutôt que de licencier, ils ont décidé de passer une sorte d'appel à l'industrie pour leur dire qu'il y avait actuellement des développeurs de talent qui étaient disponibles en ce moment chez eux. Alors, j'avoue que je ne sais pas exactement de quoi ils retournent une fois qu'on répond à cette annonce sur le modèle de travail. Est-ce que le studio, il entend faire l'interface en tant que prestataire? Est-ce que c'est une manière d'utiliser son réseau pour trouver des jobs intérim aux différents devs de l'équipe, comme des intervenants solo, pendant que, bah, en fait, on coupe leur salaire? Est-ce que c'est une manière très soft et potentiellement très détournée et pas hyper cool de licencier sans vraiment dire qu'on licencie? En tout cas, les deux chefs d'équipe vont, eux, continuer à patcher le jeu encore quelques semaines, puis ils disent qu'ils rejoindront les rangs des devs rendus disponibles pour des boulots de commande. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est une communication un peu différente que celle auxquelles on a été habitué ces temps-ci. Soit, en fait, effectivement, ce sont des licenciements, soit ce sont des licenciements qui sont annoncés, soit on les apprend par des professionnels de l'industrie. Là, c'est un peu différent. C'est un appel à ce qu'on vienne s'intéresser aux talents disponibles au sein du studio. Peut-être qu'on pourra approfondir ça quand on comprendra exactement de quoi il est question. Et une deuxième information un petit peu de cet ordre-là, mais qui devrait vous parler un petit peu plus, parce que je crois que le jeu était un petit peu plus attendu. Something Wicked Games, c'est un studio qui a été fondé par des anciens de Obsidian, de Bethesda, mais aussi de BioWare. Un studio qui a été fondé en 2022, avec bah, voilà, hein, la fameuse promesse de fabriquer du jeu AAA. C'est quelle idée ! Et donc, a priori, le studio ne survivra pas à son premier développement de jeu. Something Wicked Games, c'était un studio qui a été mené à la base par Jeff Gardiner, qui est donc qui était producteur sur Fallout 3, puis lead producteur sur Fallout 4, sur Fallout 76, et son DLC qui a sauvé le truc pour beaucoup de gens, Wastelanders. Et à ses côtés, il y avait Charles Staples. Charles Staples, c'est le directeur du design sur The Outer Worlds, ainsi que lead level designer sur Fallout New Vegas. Il y avait également Ekram Rashid, qui lui était directeur technique sur Elder Scrolls Blades. Elder Scrolls Blades, oui, tout à fait. Et donc, l'équipe travaillait sur un jeu qui s'appelait Weird Song, avec un Y en tout cas, et qui était un RPG dans une sorte de Portugal moyenâgeux, avec de la fantasy dedans. Et plusieurs sources croisées par le site Game Developer pointent en fait vers un licenciement de la quasi-totalité du studio tout récemment, sans communication officielle pour l'instant. Hein, le dernier tweet fait la promo du jeu, début février, et ça ressemble en fait très fort à une de ces très nombreuses histoires d'équipes sans pédigré, sans licence, à faire valoir auprès de financeurs qui se retrouvent pris dans cette fièvre de retrait des budgets et des partenaires financiers, des éditeurs aussi, et qui décident, voilà, on les voit, on les lit, hein, on sait que ça arrive en ce moment, on sait qu'il y a énormément de studios qui ont, j'arrête pas de le dire, mais 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 rendez-vous, et qui se font expliquer que voilà, telle entreprise va revoir son implication financière dans le jeu vidéo indépendant et des trucs comme ça, quoi. Donc on attend d'en savoir plus, mais voilà, si vous suiviez le développement avec l'intérêt tout spécial, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés particulièrement par ces gens sortis de chez Bethesda ou de chez, BioWare ou de chez Obsidian qui veulent faire autre chose. Et bien voilà, c'est râpé pour Wordsong et ça donne à minima une vingtaine de personnes licenciées. Je dis à minima parce que je ne sais absolument pas si le studio avait déjà accéléré sur les embauches ou non. 2 ans après sa création, ce serait un peu rapide, j'ai l'impression en tout cas, mais on n'est pas à l'abri que ce soit arrivé. Est-ce qu'il y avait vraiment un dernier chapitre après les brèves ? On va parler de Sweet Baby Inc. Il y a quelques jours, pendant lesquels moi je me suis convaincu du fait que le sujet Sweet Baby allait naturellement disparaître, parce que ça paraissait trop gros, que ça puisse survivre, je me suis dit qu'on allait attendre et qu'on allait faire l'autopsie le moment venu, et puis on a de très très gros leaders d'opinion qui ont attisé les flammes de ce complotisme-là, et ça fout les nerfs, et voilà, je sais même pas pourquoi je suis encore surpris. Voilà qu'on se retrouve effectivement en pleine année électorale aux États-Unis avec un nouveau mouvement ultra réactionnaire dans la sphère jeux vidéo. Donc on est sur un mouvement de masse. Sweet Baby Inc, c'est pas le mouvement, hein, qu'on soit très clair, c'est une entreprise dont on va parler. Un mouvement qui va désinformer, qui va harceler et dont les prétendus objectifs de base sont assez impossibles à retrouver dans le marasme d'idées un peu dégueu qu'il charrie avec lui. Et pourquoi j'ai dit un peu avant dégueu, je ne sais pas. Donc je préfère poser un cadre dès le début. Ça va vous sembler très américano-centré, mais je vous assure que ça porte jusqu'à chez nous. Et puis américano-centré, depuis la montée via le jeu vidéo américain de l'alt-right qui a porté la candidature Trump, avec tous les effets mondiaux qu'on connaît, ça ne veut malheureusement plus dire grand-chose. Un deuxième point de cadrage important pour ce qui va se dire désormais, c'est politique. C'est politique, je considère les gens dont on va parler comme des adversaires politiques, et c'est pour ça que j'en parle. Les commentaires genre « parle de jeux vidéo », ça m'intéresse pas, et les trucs genre « tu leur donnes du crédit en parlant », pour moi c'est du raisonnement CPCE1 et ça ne m'intéresse plus non plus. Je veux pas être insultant, mais je préfère être très clair vraiment. Si, grosso modo, vous êtes déjà dedans jusqu'au cou, je préviens, je vais pas parler de tous les trucs qui tournent en boucle sur Twitter et qui sont supposés prouver l'existence d'un complot. C'est vraiment une entrée au sujet et une ouverture à des lectures qui m'intéressent pour des personnes qui seraient curieuses de rejoindre le complot dont je fais partie. Alors comment un YouTuber comme Asmongold ou Elon Musk sont désormais les porte-voix d'une véritable chasse aux sorcières qui prétend combattre un complot wokiste qui viserait en fait à priver les studios de leur pleine créativité et a poussé à la place son propre plan de diversité et d'inclusivité forcée, ce que de nombreux membres du mouvement identifient comme, bien sûr, des symptômes de la décadence de l'Occident, de sa culture, etc. C'était d'abord un Discord où s'échangeaient, entre autres, alertes sur la wokisation des jeux, des propos assez infects, on avait là-dedans de la misogynie, du racisme, de la transphobie, de l'antisémitisme, bref, la totale, avec un fort accent sur la transphobie d'ailleurs. Et donc c'est devenu une campagne de harcèlement qui vise, vous connaissez cette histoire, on l'a vécu il y a 10 ans, mais elle est un peu différente, vous allez voir, qui vise des professionnels du jeu vidéo, évidemment, des personnes minorisées en priorité, évidemment, ainsi que les journalistes qui essaient de remettre un peu de réel là-dedans. Évidemment, si ce sont des journalistes et des personnes minorisées, ça fait un bingo. Donc les journalistes sont dans le complot gauchiste également, et moi également, sauf que eux ils sont juste un tout petit peu, et moi je veux être 300% complot. Tout ça commence autour de l'entreprise qui s'appelle Sweet Baby Inc., qu'on va appeler Sweet Baby. C'est une agence de conseil en narrative design, comme il en existe en fait des milliers. Hein. Et ils travaillent sous forme de mission au contact des studios de jeux vidéo qui en expriment le besoin. Ce sont des prestataires. Et donc Sweet Baby, comme plusieurs dizaines d'autres, hein, je le rappelle encore une fois, s'est spécialisé dans l'accompagnement des studios qui vont les mandater pour obtenir de l'aide sur l'écriture des dialogues ou ce qu'on appelle le développement narratif ou le développement scénaristique. Donc en gros, On a écrit les grandes lignes de tout ça. Désormais, on aimerait peaufiner ici, peaufiner là, aller chercher plus de cohérence, plus de réalisme, plus de points qui permettent de sortir du caricatural pour permettre à plus de gens de s'identifier et d'être plongés dans le scénar. Et pourquoi pas, autre activité de la boîte, parce qu'il y a plusieurs activités dans cette entreprise, fournir aussi aux entreprises qui vont le demander des conseils en termes de points de vue, des points de vue plus divers, des expériences de vie différentes, pour que les studios qui sont en quête d'une écriture plus crédible puissent trouver effectivement des conseils pour que plus de gens puissent se reconnaître. Donc des conseils en diversité et en inclusion. C'est une partie de l'activité de l'entreprise qui existe finalement en réponse au manque de points de vue divers dont souffre l'industrie et dont elle est parfois déjà bien consciente. Donc dans ce cadre, le but c'est de collaborer avec des studios qui se disent « c'est pas parce qu'on est un peu trop tous dans le même vécu ou presque qu'il faut attendre que ça change ». Et si on attend, ça n'arrivera peut-être jamais, alors demandons de l'aide maintenant. Ça, c'est ce que fait Sweet Baby, ainsi que des dizaines d'autres entreprises, je le rappelle. Mais c'est pas exactement ce que vous lirez si vous vous perdez sur Internet. Vous lirez, par exemple, que la boîte, elle va forcer la main des entreprises, qu'elle leur fait respecter toutes sortes de quotas, des quotas d'identité, de genre, de couleur de peau, que tout le travail fourni par l'entreprise passe par le filtre de l'identité, et que les scénarios sont complètement transformés au mépris des envies des scénaristes au sein des studios. En gros, que pour obtenir des financements aussi, les jeux doivent désormais se plier à une idéologie woke, alors que vraiment toute l'industrie l'explique en réaction. Non, c'est tout l'inverse. Il existe effectivement des bourses de quelques dizaines de milliers d'euros, ça et là pour la diversité et la diversification même des équipes de développement de jeux vidéo, mais choper un budget pour un gros jeu, c'est plus difficile dès que tu as ces objectifs de diversité, justement. Dans ce que vous lirez, on vous dira que avant le passage de Sweet Baby, Saga Anderson était un personnage blanc dans Alan Wake 2. On vous dira que Anger Boda, ce sera exactement la même chose dans God of War Ragnarok. On vous dira aussi peut-être que Kratos était un vrai bonhomme qui ne se remet pas en question avant l'arrivée de Sweet Baby, et ça semble être un problème, mais bon. C'est Sweet Baby également qui aurait ruiné le jeu Suicide Squad. Et pareil pour Spider-Man 2, parce que Spider-Man 2 s'intéresse au point de vue de MJ et c'est un problème également. Je ne plaisante pas quand je vous donne ces exemples-là. Le mec qui a créé le groupe Steam qui va recenser et appeler au boycott des jeux sur lesquels a travaillé l'entreprise Sweet Baby a dit en interview sur le site Geeks and Gamers « J'ai commencé à reconnaître des motifs récurrents dans les jeux comme des femmes moches ou des persos masculins affaiblis par des personnages féminins plus forts qu'eux. » De là, tout est mis en œuvre pour refuser en bloc l'idée que les studios qui fabriquent les jeux aient authentiquement envie de livrer des histoires qui parlent à plus d'un seul groupe de personnes. Il y a des extraits de conférences qui sont sortis de leur contexte pour tenter de prouver que SBI, donc Sweet Baby Incorporated, que chez eux, on apprend aux employés des studios à terroriser leur management en agitant le spectre de la cancel culture. Spoiler, si vous prenez le temps, et je vous conseille de le faire, vous pouvez regarder la séquence de cette fameuse conférence de la GDC, et si vraiment vous prenez ce temps et que vous la regardez en entier, et pas juste la partie isolée, vous verrez qu'une consultante dit, si le sujet d'une meilleure représentation les intéresse, que pour se faire entendre de la direction, si la direction est adverse à ces questions, il ne faut pas hésiter à aller chercher du soutien ailleurs dans l'entreprise, et notamment du côté du marketing ou du côté du community management, qui en gros sont généralement plus concernés, parce qu'en première ligne, et en plus de ça, savent un petit peu aussi ce qui se passe quand le public aurait aimé que certains trucs soient traités différemment. Donc voilà, vous lirez en gros que c'est la grande dictature woke par l'intermédiaire d'une seule entreprise, que c'est la censure, bref, qu'il existe une petite agence qui a le pouvoir en tant que prestataire, d'enrayer la libre création. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Moi, je vous dis ce que je pense. C'est de la pure panique morale, comme on fabrique à la chaîne toutes les extrêmes droites du monde. Mais voilà, pour ces gens-là, ils sont des lanceurs d'alerte. Dénoncer publiquement l'existence d'un groupe Steam qui liste les jeux sur lesquels a travaillé Sweet Baby, pour rappel, l'une des nombreuses entreprises, pour eux, c'est présenté comme une campagne de harcèlement. Dire que c'est pas comme ça que sont fabriqués les jeux, parce que c'est pas comme ça que sont fabriqués les jeux, il n'y a pas des consultants qui arrivent et qui transforment le scénario en cours de développement, ou même retweeter quand le directeur créatif de Remedy assure que tout ce qui se dit sur Alan Wake 2 c'est complètement faux, et bien c'est faire partie du complot. Et cette panique-là, elle est portée par des gens qui n'y croient bah, pas une seconde, on n'est pas vraiment surpris, mais qui ont compris qu'ils allaient pouvoir se faire beaucoup d'argent avec. Le youtubeur Asmongold, par exemple, il s'en fout des jeux woke, mais il va de sujet inflammable en sujet inflammable pour la thune. Musk, il sait que prendre une petite boîte de scénaristes américaine ou canadienne, pardon, l'acheter en pâture à ses Twitter Blue, bah ça va renforcer son petit statut de dieu des fachos sur Internet. Mark Kern, qui est un ex-Blizzard, qui est devenu businessman de l'indignation réactionnaire, il n'a eu qu'à se baisser sur ce coup-là. En anglais, on appelle ça des grifters. Et on en revient, effectivement, il y a toujours ce grand paravent bien pratique qui va dissimuler tout ce beau monde. Pour certains représentants du mouvement, l'ambition... elle n'est pas du tout voilée, c'est de faire revenir un second Gamergate. Cette fois, c'est pas, le paravent, c'est pas l'éthique dans le journalisme jeu vidéo, c'est la libre création versus la police de la pensée woke. Les tactiques sont les mêmes. Le rôle de lanceur d'alerte juste inquiet, c'est le même. En revanche, l'industrie, elle a 10 ans de plus. Donc, comme le dit une journaliste qui s'appelle Ash Parrish et qui a écrit sur le sujet dans les colonnes de The Verge, eh bien, l'industrie ne se tait pas. Les développeurs, ils prennent la parole pour dénoncer quand les faits sont fabriqués. Il y a des articles qui s'écrivent pour aider les gens à y voir un poil plus clair. Bref, il y a des gens qui s'exposent à des menaces de mort pour contrer ce que l'algorithme essaie de pousser, ce que les algorithmes essaient de pousser. Et quand je parle de menaces de mort, je ne plaisante pas, hein, vraiment les journalistes américains anglo-saxons qui se sont levés sur le sujet ont reçu des menaces de mort. Les développeurs qui ont essayé de dire que ça se passait pas comme ça chez eux, alors qu'ils avaient travaillé avec Sweet Baby, ça s'est passé exactement de la même manière. On est vraiment sur une campagne de harcèlement extrêmement, extrêmement violente. Je reste cependant en désaccord avec pas mal d'articles sur le sujet sur un point. Est-ce que je serais finalement pas partie du complot ? Je ne sais plus. Bref, il y a plusieurs articles que je considère être dans mon vent de pensée également, qui énonce que cette espèce de tentative de vouloir faire renaître un mouvement Gamergate en 2024, elle est déjà foutue. Du coup, ça les expose déjà au fameux « si c'est déjà foutu, eh bien pourquoi t'en parles ?» D'un côté, il y a ça, et puis de l'autre, ça m'inquiète quand on voit comment le journalisme jeu vidéo n'a pas été équipé pour traiter le Gamergate. De traiter déjà ça comme un épiphénomène parce que bah, je suis d'accord que bien sûr, bientôt, les grifters, eh bien, ils seront passés à autre chose. Les Asmongold, les Musk, etc., ils auront trouvé un autre truc à faire. Leur contenu, eux, ils vont rester. Et comme sont restés d'ailleurs bah, toutes les vidéos et tous les reacts sur le procès d'Ep Heard. Pardon, hein, mais c'est exactement la même chose. Et je trouverais ça un peu fou de ne pas avoir mis en place assez de relais dans le sens inverse. C'est un peu, à mon sens, le moment de se rappeler entre confrères et consoeurs qui vont être amenés à traiter ces sujets-là sur leur plateforme. En gros, ils vont parler potentiellement de l'éventuelle montée d'un nouveau mouvement politique voisin de celui qu'on a connu au travers du jeu vidéo. Je pense qu'il est important là de se rappeler les uns les autres qu'on va essayer de parler au plus grand nombre. On va pas mettre ça derrière des paywalls ou des formules d'abonnement. Si on a la possibilité de négocier avec sa hiérarchie, défendre le côté utilité publique de ce genre de contenu, je pense qu'il est important de le faire. Faut qu'on se souvienne que c'est aussi l'opposition entre la gratuité des fausses informations d'un côté et la montée de la bonne info mise derrière paywall de l'autre, il y a 10 ans, surtout du côté du journalisme politique et du journalisme généraliste, parce que c'était pas le cas dans le jeu vidéo, qui a permis effectivement à ce que le premier mouvement ait tant d'écho, pas d'opposition, avec les conséquences hein, sur la vie politique américaine qu'on connaît. Il a souvent manqué des articles de référence à l'époque, accessibles gratuitement, qui puissent être partagés pour débunker les fabrications qui se distribuaient sur les réseaux sociaux, via les applis de messagerie, etc. etc. Et puis surtout, faut pas se laisser appeler au silence. Voilà, les gens vont venir t'accuser de venir signaler ta vertu, mais ne faire rien d'autre. C'est une tactique de silenciation qui est ultra basique, pendant que de l'autre côté, ça va diffuser pur mensonge, s'auto-RT en boucle entre eux, avec le soutien de Musk, littéralement désormais le facho le plus riche du monde. Donc c'est pas moi qui me virtu-signale, c'est vous qui vous truduc-signalez. Toute l'année, je continuerai à me virtu-signaler et à essayer de parler de ces trucs-là et à essayer d'emmener les gens vers des lectures qu'ils pourront ensuite partager à d'autres gens. Maintenant que c'est plus une tempête dans un verre d'eau, maintenant que le patron du plus gros réseau social actuel en a fait son nouveau jouet parce qu'il s'emmerde, il faut lire et il faut faire lire les articles qui sont clairs et factuels au sujet de l'affaire Sweet Baby Inc. Pas pour faire changer d'avis des théoriciens du complot, ça c'est foutu. On sait que c'est peine perdue. Mais pour freiner leur capacité de recrutement, pour que plus de gens soient capables de dire « Ah, tu me parles de Sweet Baby, ça tombe bien, j'ai lu plein de trucs sur le sujet, plutôt que de se retrouver à dire « Ah là là, ça a l'air grave ce dont tu me parles, dis-m'en plus !» Voilà, je vais vous mettre en description des articles. Il y a de l'anglophone, il y a du francophone, il y a du frandroid avec Cassim Montilla, il y a du Numérama avec Thomas Merer, il y a des articles sur The Verge, des articles sur Kotaku, bref, tout le complot est là, tout le complot gauchias a écrit sur le sujet, et c'est déjà ce qui diffère d'il y a 10 ans. Quand il pleut des conneries sur Internet, je trouve que lire de temps en temps des trucs, des articles sur des sujets qui ne nous touchent pas et ne nous concernent pas directement, ça fait tout de même un bon parapluie, quoi. Donc, voilà. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Sans transition, sans bamboche, sans rien, je fuis comme un couard de journaliste que je suis. La prochaine fois, on parlera des responsabilités que ne prennent pas les plateformes comme Discord ou Steam face à ce bourbier. Non, je déconne. On aura autre chose à faire, mais on finira bien sûr par y venir un jour. Bonne journée, bonne semaine sur Internet. Le planning d'Origami est disponible sur les réseaux sociaux. Jeudi après-midi sur cette chaîne Twitch, c'est Internet Exploreuse, présenté par Héloïse et Lucie. Ça va être, comme d'hab, le feu. Merci de votre attention et de votre ouverture maximum à ces sujets. Prenez grand soin de vous et à très vite. Allez, salut.